Plaisir d'être là pour cette deuxième semaine. Donc, le pasteur Marc-Étienne est en vacances actuellement. Nous sommes une famille de Londres, mais nous connaissons Marc-Étienne et sa famille. Et donc, c'est une joie d'être là et de partager la parole de Dieu avec vous. Je vais faire une petite parenthèse anglaise. How many people could only understand if it's in English? A few, okay. Donc, il y a quelques personnes qui comprennent seulement l'anglais, donc je vais faire quelques petites parenthèses en anglais pendant le message, mais ce ne sera pas de trop, j'espère. Donc, on va étudier le psaume 73. So, we're going to study Psalm 73 this morning. Psalm 73. Et je vais le lire. C'est assez long, donc je vais simplement le lire en français. Et après, on va considérer ce psaume et l'impact qu'il a sur nous à Cavaillon et autre part en 2014. Donc, psaume 73. Dieu est vraiment bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. Pourtant, j'ai bien failli faire un faux pas. Il s'en est fallu d'un cheveu que je tombe. J'ai vu en effet que ceux qui ont renié Dieu, j'ai vu que tout leur réussit et j'ai envié ces insolents. Ces gens-là n'ont jamais d'ennui. Ils sont gros et gras. Ils ne connaissent pas la peine des hommes. Ils sont durs. Les coups durs sont pour les autres, pas pour eux. Ils portent l'arrogance comme une décoration. La violence leur va comme un costume sur mesure. Dans leur luxe, ils vous regardent de haut. On voit bien tout ce qu'ils imaginent. Ils se moquent, ils parlent méchamment, d'un air supérieur. Ils ne parlent que d'opprimés. Ils ouvrent la bouche pour s'attaquer au ciel et leur langue n'épargne rien sur la terre. C'est pourquoi tout le monde se tourne vers eux et boit leurs paroles comme de l'eau. Ils déclarent, « Dieu ne peut-il rien remarquer? Comment peut-il savoir celui qui est là-haut? Regardez-les, ces gens-là, sans foi ni loi, toujours à l'abri des ennuis, ils améliorent leur situation. C'est donc pour rien que je suis resté honnête et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Tous les jours, j'endure toutes sortes de peines. Chaque matin, je suis au supplice. Mais si je me décidais à parler comme eux, je serais traître envers tes fils, mes compagnons. J'ai voulu y réfléchir pour comprendre, mais tout cela m'a paru trop difficile. Jusqu'au jour où, entrant dans ton sanctuaire, j'ai compris quel sort les attendait. En fait, tu les mets sur une pente glissante, tu les fais tomber dans un piège. Ah, comme un peu de temps, ils sont réduits à rien, finis, anéantis par une terreur soudaine. Seigneur, dès que tu entres en action, ils se réduisent à rien, comme des images d'un rêve lorsqu'on se réveille. Quand j'étais plein d'amertume, choqué jusqu'au plus profond de moi-même, j'étais stupide, je ne comprenais rien, comme une vraie bête devant toi. Pourtant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite, tu me conduis selon ton plan, et tu me recevras avec les honneurs. Au ciel, qui me viendra en aide sinon toi? Et ici-bas, que désirer puisque je suis avec toi? Mon corps peut s'épuiser, mon cœur aussi, mais mon appui, mon bien le plus personnel, c'est toi, Dieu, pour toujours. Ceux qui s'éloignent de toi succombent, et tu réduis à rien ceux qui t'abandonnent. Mais mon bonheur à moi, c'est d'être près de toi. J'ai mis ma confiance en toi, Seigneur, pour proclamer tout ce que tu as fait. So that's Psalm 73, le psaume 73. Last week we studied Psalm 1. Donc la semaine dernière, on a étudié ensemble le psaume 1. Et on a vu dans le psaume 1 que l'homme heureux ou la femme heureuse est une personne qui sait dire non au monde pour dire oui à Dieu. So last week, Psalm 1, we saw that someone who knows God, who's happy, knows how to say no to the world, but say yes to God. Et c'est une personne stable et pleine de vie, comme un arbre planté à côté d'un cours d'eau, ressourcé par la parole de Dieu. C'est une personne qui réussira sa vie. Donc le psaume 1 nous avait mis face à deux voies. Une qui mène vers une vie heureuse, comme un arbre bien planté à côté d'un ruisseau. L'autre, la voie des méchants, qui nous mène loin de Dieu et qui nous mène vers le jugement. Et aujourd'hui, nous allons étudier le psaume 73, que j'avoue est mon psaume préféré depuis que je l'ai étudié à l'âge de 14 ans. Ça fait maintenant très très longtemps. Et ce psaume nous met face à un paradoxe. So Psalm 73 puts us in front of a paradox. Et ce paradoxe est celui-ci. Pourquoi certains hommes et certaines femmes qui semblent entièrement rejeter Dieu et sa parole réussissent si bien dans ce monde?
So the paradox of Psalm 73, why do people who seem to entirely reject God do so well in life?
Et c'est un paradoxe qui n'est pas nouveau. Mais il faut avouer que beaucoup de grands de ce monde vivent et agissent comme si Dieu était mort ou absent. C'était mon compatriote John Lennon qui avait dit un jour, à l'âge de seulement 26 ans, que les Beatles étaient plus populaires que Jésus. Et bien des personnes semblent vraiment réussir leur vie, comme il l'a fait avant sa mort prématurée, sans faire beaucoup attention au Dieu qu'on découvre dans la Bible. Ce sont des personnes de tous niveaux sociaux. Il est possible de rejeter Dieu et de grimper jusqu'en haut de l'échelle du pouvoir ou de la richesse, en France comme dans d'autres pays. Donc le paradoxe du psaume 73, il y a 3000 ans, est bien réel aujourd'hui, en 2014. Et ce constat peut semer des doutes ou causer des difficultés pour les croyants. Est-ce que pratiquer notre foi vaut vraiment la peine? So Psalm 73 asks the question, is it really worth being a believer? Est-ce que je dois continuer à venir à l'église? Est-ce que je dois continuer à lire ma Bible? Est-ce que je dois continuer à prier Dieu? Est-ce que cela vaut la peine? À la fin du psaume, l'auteur, Asaph, arrive à une conclusion. Oui, ça vaut la peine de vivre avec Dieu et pour Dieu. Et on voit cela au verset 28, si vous avez la Bible devant vous, je vais le lire. « Mais mon bonheur à moi, c'est d'être près de toi. J'ai mis ma confiance en toi, Seigneur, pour proclamer tout ce que tu as fait. » Mais Asaph fait beaucoup de chemin dans le psaume 73 pour arriver à cette conclusion, car au début, il était prêt à lâcher prise. Et je vous propose qu'on parcourt ensemble le chemin du psaume 73 en regardant le texte en détail, puis en réfléchissant à comment l'appliquer à Cavaillon et autre part. D'abord, quelques mots sur le texte lui-même. Le psaume 73, écrit par Asaph, qui a écrit 12 des 150 psaumes dans la Bible, et la plupart des psaumes étant écrits par le roi David, et ce psaume est écrit à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ. Asaph était quelqu'un qui dirigeait la louange dans le temple. Et dès le verset 1, on voit que c'est quelqu'un qui a fait son catéchisme. Et il commence, « Dieu est vraiment bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. » Donc en anglais, Psalm 73, he starts well. He says, « Truly, God is good to those who are pure in heart. » He's holding on to his belief. Ce verset exprime une croyance très orthodoxe en le Dieu de la Bible. Mais cette croyance, solide auparavant, ne semble plus tenir qu'à un fil. Son cœur pâtit. Il nous le dit lui-même, dans le verset 3, que ses pieds sont prêts à glisser. Il va lâcher prise avec ses croyances, car il n'arrive plus à faire la synthèse entre ce qu'il observe dans la vie et sa foi. Le monde semble être à l'envers.
It looks like the world upside down.
Il observe des non-croyants dont la vie semble être un long fleuve tranquille, une existence remplie de richesses, de bonne santé, de bronzage uniforme. Ceci, malgré le fait qu'ils ont levé leur poing vers Dieu. Ces personnes font exactement l'opposé de l'homme heureux du psaume 1. Mais ils semblent quand même être heureux, ou du moins réussir. Donc, Asaph commence à perdre le fil. Et c'est notre premier point. Le succès des insolents sème le doute. Le succès des insolents sème le doute. Et je vais juste dire les points en anglais aussi.
So our first point is that the success of those who insult God starts to bring doubts into Asaph's mind.
And that's from verses 2 to 11. C'est du verset 2 à 11. Je vais juste en relire rapidement. Pourtant, j'ai bien failli faire un faux pas. Il s'en est fallu d'un cheveu que je tombe. J'ai vu en effet ceux qui ont renié Dieu, j'ai vu que tout leur réussit et j'ai envié ces insolents. Donc dans cette section du verset 2 à 11, Asaph voit des personnes en opposition envers Dieu, mais ils ont quand même une vie soi-disant parfaite. Ils sont insolents, verset 3. Pire, ils sont violents, verset 6. Ils sont moqueurs et parlent méchamment, verset 8. Ils s'attaquent même au ciel, verset 9. Ils déclarent que Dieu ne peut rien savoir, verset 11. Et malgré tout cela, ils n'ont jamais d'ennui, verset 4. Ils ne connaissent pas la peine des hommes, verset 5. Ils vivent dans le luxe, verset 7. Et tout le monde se tourne vers eux pour boire de leurs paroles comme de l'eau, dans le verset 10. Asaph est perplexe. Ce n'est pas logique. Est-ce que ma foi en Dieu est bien placée, se demande-t-il. Et il n'est pas difficile de se poser la même question aujourd'hui. Allez dans n'importe quelle librairie de Cavaillon ou ailleurs et vous verrez la presse People, des tas de magazines empilés, remplis de belles images de gens qui, pour la plupart, semblent rejeter Dieu, mais néanmoins semblent très bien s'en sortir. Rentrer dans beaucoup d'entreprises privées ou d'administrations publiques, et le constat est souvent le même. On y trouve des personnes qui tiennent le pouvoir et l'argent, mais semblent vivre à l'écart de la parole de Dieu, voire même le poing levé contre Dieu. Et pour Asaph, ceci pose un réel problème, au point de lui faire perdre sa foi. Et peut-être, si l'on est honnête, cela nous pose un vrai problème aussi. Peut-être que dans notre fort intérieur, on remet en cause notre foi chrétienne en voyant au quotidien des gens qui réussissent si bien sans Dieu. Je suis sûr que nous sommes nombreux à penser en ce moment aux chrétiens en Irak. Ils doivent se poser cette même question. Pourquoi le succès des insolents? Pourquoi, Seigneur, permets-tu cela? Peut-être jusqu'au point de tomber. Le problème auquel Asaph faisait face est plus qu'intellectuel. Il n'a pas simplement un doute philosophique. Son cœur est atteint. Il est également en train de devenir jaloux de ces personnes et de leur réussite. Et c'est notre deuxième point. Le succès des insolents sème la jalousie. Our second point, the success of those who insult God creates jealousy in Asaph's heart. And that's from verses 12 to 15 of Psalm 73. Je vais lire à partir du verset 12. Regardez-les, ces gens, sans foi ni loi, toujours à l'abri des ennuis. Ils améliorent leur situation. C'est donc pour rien que je suis resté honnête et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Tous les jours, j'endure toutes sortes de peines. Chaque matin, je suis mis au supplice. Le succès des insolents sème la jalousie. Asaph se demande pourquoi il a fait tant d'efforts pour garder son cœur pur, si d'autres, qui n'ont fait aucun effort spirituel, connaissent la belle vie. Asaph sait, comme tout le monde qui a lu l'histoire d'Adam et Ève, que son cœur ne reste pas sur la bonne voie en pilote automatique. Sa nature première est corrompue par le péché originel. Il a dû faire un effort et demander l'aide de Dieu pour garder son cœur pur. Il a dû nager contre-courant dans sa société. Et il se demande si cet effort en valait la peine. J'avais un ami qui m'a dit un jour qu'il trouvait que la course à pied était ennuyeuse. Il n'y trouvait aucun intérêt. Je lui ai dit, pour le taquiner, que s'il allait un peu plus vite, il trouverait sans doute que c'était moins ennuyeux. Je suis sûr que Kenenisa Bekele, qui a gagné le marathon de Paris en 2h05 cette année, n'était pas ennuyé en faisant sa course, plutôt éprouvé. Asaph est le croyant qui a voulu combattre pour devenir pur. Il n'a pas trouvé ça ennuyeux. Il a trouvé son parcours de foi parfois rude et éprouvant, comme un marathonien. Et quand il fait le bilan de ses circonstances et celles des méchants, Le bilan ne lui semble pas favorable et Asaph se fait donc pitié. Il se trouve défavorisé par la vie, peut-être par Dieu. Il remet tout son parcours en cause. Il est sur le point de tomber. Il est dans un cercle vicieux. Au verset 14, on n'a aucun indice de comment il va s'en sortir. Son cerveau devient plus lourd. Son cœur devient plus fatigué.
So Asaph, when we get to the halfway point, verses 14 and 15, his head becomes heavy. His heart becomes tired. He can't find a way out.
Donc, il décide de garder cela pour lui et de ne pas entraîner les autres dans son tourment, au verset 15. C'est un bon exemple pour les chrétiens en position de responsabilité, comme il l'était à la synagogue. Il aurait pu faire beaucoup de dégâts en partageant tous ses doutes avec le peuple d'Israël avant d'arriver à la fin de sa prière et de sa réflexion. Donc, Asaph semble aller droit dans le mur, vers la perte de sa foi. Mais tout change au verset 17.
So everything changes in verse 17, Psalm 73.
Rentrer dans le sanctuaire de Dieu renverse sa perspective.
Coming into God's sanctuary changes his perspective completely.
Donc je vais lire à partir du verset 17, ou 16 plutôt. J'ai voulu y réfléchir pour comprendre, mais tout cela m'a paru trop difficile. Jusqu'au jour où, entrant dans ton sanctuaire, j'ai compris quel sort les attendait. En fait, tu les mets sur une pente glissante. Tu les fais tomber dans un piège. Donc à partir du verset 17, Asaph n'est plus comme un enfant qui boude et qui se fait pitié. À partir du verset 17, de manière soudaine et presque miraculeuse, sa perspective est complètement renversée. C'est comme si Asaph était allé chez Alain Afflelou, à quelques centaines de mètres, et avait changé de lunettes spirituelles. Il voit tout différemment, en commençant avec les méchants, mais également son parcours de croyant et Dieu lui-même. Qu'est-ce qui a changé?
So what's changed? Verse 17.
Notre indice est dans cette petite expression « entrant dans ton sanctuaire ». J'ai compris. Il est possible qu'il soit rentré physiquement dans le temple, ou peut-être qu'il soit simplement rentré dans la prière. Et pour les chrétiens, Jésus nous dit en Jean chapitre 4 que nous pouvons prier partout, à Cavaillon, à Robion, à Avignon, à Paris, à Londres. Donc, nous pouvons vivre ce changement de perspective du verset 17 à n'importe quel endroit physique. Quand Asaph rentre dans le sanctuaire, il rentre dans la perspective de Dieu le Père. Et cela change beaucoup de choses. Il arrive à voir de la perspective de Dieu. Et il arrive à voir le destin des personnes desquelles il était jaloux dans la première partie du psaume.
So he starts to see the people he was jealous of, but through God's eyes.
Lisons à partir du verset 18. En fait, tu les mets sur une pente glissante, tu les fais tomber dans un piège. Ah, comme dans un peu de temps, ils sont réduits à rien, finis, anéantis par une terreur soudaine. Seigneur, dès que tu entres en action, ils se réduisent à rien, comme les images d'un rêve lorsqu'on se réveille. Pourquoi serait-il jaloux de personnes arrogantes que Dieu va juger et humilier? Ce serait illogique d'être jaloux de ces personnes-là. Sa perspective change complètement. Et ce ne sont pas des versets faciles, car nous connaissons tous des personnes qui s'opposent à Dieu. Et lire que Dieu va les juger est une chose dure. Du moins, je trouve ça très dur, personnellement. Mais c'est important que nos perspectives soient renversées, comme celle d'Asaph.
So it's important for our perspective to be changed, to be turned on its head, like Asaph's perspective was in verses 17 and onwards.
J'avais un ami qui m'a raconté comment sa perspective était complètement renversée un jour de vacances et sur un sujet plus banal. Ça s'est produit quand il avait 21 ans. Et pour la première fois, il avait un petit peu de son propre argent dans ses poches. À la fin des vacances, la famille était allée au restaurant ensemble, mais son père avait oublié sa carte bancaire. Et donc,
mon ami, fier de ses 21 ans et de son premier salaire, a dû payer. Puis, son père a oublié de le rembourser pendant quelques jours. Et quelques jours plus tard, mon ami s'est plaint auprès d'un de ses frères ou de ses sœurs et a dit « Tu sais, papa ne m'a jamais remboursé pour le repas de l'autre jour au restaurant. » Et son frère ou sa sœur l'a rappelé à l'ordre en disant « Oui, mais papa a payé pour toutes les vacances. » Et soudainement, sa perspective s'est renversée et il a pu voir la situation à travers les yeux de son père. La rancune a donné place à la reconnaissance. Et pour Asaph, sa perspective change quand il entre dans le sanctuaire de Dieu. Cela lui rappelle que Dieu est plus grand que les insolents. Asaph avait choisi de mettre Dieu en première place dans sa vie. Et dans la première partie du psaume, comme on l'a vu, il remettait ce choix en cause. Une fois rentré dans le sanctuaire de Dieu, il se rend compte qu'il a fait le bon choix. Ce n'est pas grave si les insolents semblent plus prestigieux que lui ou connaissent plus de succès. Dieu sera l'arbitre de leur destin. De manière beaucoup plus grave pour les chrétiens aujourd'hui en Irak, ce n'est pas au final grave si les insolents semblent avoir le pouvoir militaire en levant leur poing vers Dieu. C'est certes très dur, cela doit mettre leur foi à l'épreuve, comme nous ne le connaissons pas. Mais le psaume 73 rappelle l'ordre des choses. En peu de temps, ils seront réduits à rien, comme les images d'un rêve quand on se réveille. Qui se souvient des choses desquelles il a rêvé la nuit dernière? So who remembers what they dreamt of last night? Personne ou personne ne veut l'admettre, parce que peut-être que je demanderai après quel était le sujet. Mais so nobody can remember what they dreamt about last night. Et dans le verset, donc dans le verset 20, in verse 20, on voit que ces personnes seront réduites à rien, comme les images d'un rêve lorsqu'on se réveille. So you see, Asaph's enemies are going to be taken away, they're going to disappear like memories of a dream when you wake up. L'apparence d'aujourd'hui n'équivaut pas au destin final. Le succès et la sécurité vus du sanctuaire de Dieu n'est pas pareil que le succès et la sécurité vus par un journal télévisé. Les perspectives sont différentes. Le psaume 73 nous interpelle à bien calibrer notre perspective sur la vie, sur ce qui dure, et donc sur nos priorités. Et à la fin du psaume 73, Asaph semble être le plus heureux et le plus satisfait des hommes, car il a compris que Dieu lui suffit. Et c'est notre quatrième point. Dieu suffit. Dieu suffit. So our fourth and final point. Knowing God is enough. Knowing God is enough. That's verses 23 to the end of the psalm. Donc à partir du verset 23, pourtant je suis toujours avec toi, tu m'as saisi la main droite, tu me conduis selon ton plan, tu me recevras avec les honneurs. Au ciel, qui me viendra en aide sinon toi? Et ici-bas, que désirer puisque je suis avec toi? Ce sont des versets absolument magnifiques. Asaph comprend qu'il vit en présence de Dieu et que cette présence de Dieu à ses côtés vaut plus que tout. Qu'est-ce qui pourrait valoir plus que cette connaissance de Dieu, cet avenir avec Dieu? Qu'est-ce qui pourrait peser plus dans la balance pour juger du succès d'une vie? Asaph est satisfait. Il sait qu'il aura pour l'éternité l'appui et la présence de Dieu. C'est vraiment une merveilleuse nouvelle. Et saisissons-la aujourd'hui. C'est une merveilleuse nouvelle d'avoir la présence de Dieu avec nous pour l'éternité. C'est facile dans le monde d'aujourd'hui d'être des éternels insatisfaits, de penser aux choses que l'on n'a pas, de se dire « Je serai satisfait quand je trouve mon conjoint,
j'aurai mon premier boulot, ou ma maison, ou ma première voiture, ma meilleure voiture, ou j'aurai mis assez de côté pour ma retraite. Asaph nous montre l'exemple d'un homme satisfait parce qu'il a trouvé ce qui est le plus important.
So Asaph gives us the example of someone who's satisfied because they found the most important thing in life.
Venant au Nouveau Testament, cela me rappelle d'un passage dans l'Évangile de Jean, à un moment où beaucoup de personnes cessent de suivre Jésus, dans Jean chapitre 6. Mais les disciples restaient. Je vais lire quelques versets à partir du verset 66 de Jean chapitre 6. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Jésus dit donc aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Et Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. » Simon-Pierre a entendu les paroles de la vie éternelle de la bouche de Jésus. Donc il dit, « Mais à qui irions-nous ? » Et Asaph termine le psaume 73 sur la même pensée. « Au ciel, qui me viendra en aide sinon toi ? Et ici-bas, que désirer, puisque je suis avec toi ?» Ce cheminement, qui est le psaume 73, lui fait beaucoup de bien. En se permettant d'écouter ses doutes et sa jalousie, et en remettant tout cela à Dieu, il termine le psaume avec une foi fortifiée, une espérance renouvelée. « Dieu suffit. Mais mon bonheur à moi, c'est d'être près de toi. » J'ai mis ma confiance en toi, Seigneur, pour proclamer tout ce que tu as fait. Pour clôturer notre temps ensemble, pensons à notre propre condition spirituelle ce matin. Et soyons honnêtes. Asaph était vraiment honnête vis-à-vis de sa condition spirituelle, son état d'âme. Où nous situons-nous ce matin ? Est-ce que nous sommes un peu comme l'Asaph des 15 premiers versets, perplexes face au succès des autres, remettant en cause notre foi? Si c'est le cas pour vous, je vous encourage à prendre cet exemple que nous donne Asaph, de demander à Dieu de renverser votre perspective et de rentrer dans son sanctuaire et qu'il vous aide à retrouver la satisfaction dans sa présence. Le moteur pour la vie chrétienne ne doit pas être le devoir. Asaph avait commencé ce psaume en croyant par devoir, mais avec l'envie de lâcher prise. Il avait été suffisamment honnête pour l'avouer, d'abord à Dieu, puis à tout le peuple d'Israël à travers ce psaume. Il était courageux. Et grâce au renversement de ses priorités, il termine le psaume dans l'adoration, nous voulant rien d'autre que de connaître Dieu. L'adoration et non pas le devoir, est le vrai moteur de la vie du chrétien. Je vous invite donc à prier ensemble que Dieu nous donne la même satisfaction qu'il a donnée à Asaph, de savoir que notre relation avec Dieu nous suffit et que nous serons vraiment des hommes et des femmes heureuses, comme nous l'avait dit le psaume 1, en sa présence. Je vous invite à prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce psaume, vieux de 3000 ans, mais qui nous parle aujourd'hui. Merci pour ce cheminement d'Asaph. Merci pour les vérités dont tu lui as rappelées. Et Seigneur, on te prie de nous aider à vraiment mettre ces vérités dans notre cœur ce matin et à les garder avec nous le long de cette semaine. Au nom de Jésus. Amen.